Tout le monde dira 33 ce matin. On va vérifier que tout va bien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le pire reste à venir, la matinale des antennes de Principe Actif et de la radio HDR. Ce matin, comme je vous le disais, on va dire 33 et on saura comment vous allez. On va vérifier votre santé et on a un beau plateau d'invités pour vérifier ça avec vous. Ce matin, nous parlerons santé mentale et plus précisément des semaines de la santé mentale. On en parlera dans un petit instant. On va faire un petit check-up. À la fin de cette matinale, la santé mentale n'aura plus aucun secret pour vous. Bon, en tout cas, on l'espère. Dans cette émission, il y aura également de la musique, de la bonne musique, de la bonne humeur, des chroniques au top. Vous l'aurez compris, vous êtes partis pour une heure avec nous. C'est le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
La matinale du matin qui va bien.
Les lundis, mardis, jeudi et vendredi.
Radio Principe Actif.
Alors écoute. 99.1
HDR.
Et 102.4 FM.
Radio Principe Actif.
Du bon son, de la bonne humeur et des bons plans.
Le pire reste à venir.
Et comme je vous le disais ce matin, nous parlerons santé mentale avec le nouvel hôpital de Navarre notamment, mais également avec l'association qui accompagne les familles des patients. Et puis nous parlerons également CLSM, mais ça je vais laisser nos invités en dire beaucoup plus. Autour de la table, nous avons Antoine, notre chroniqueur habituel. Comment vas-tu ?
Eh ben ça va très bien, bonjour à tous.
Et puis ça fait plaisir, aujourd'hui t'es en chair en os et en pour de vrai.
Ça faisait longtemps.
Ben oui, c'est ça, parce que pour expliquer à nos invités régulièrement, il enregistre ses chroniques parce qu'il ne cesse de travailler et n'est jamais disponible, mais il nous propose quand même son regard technologique sur le monde qui nous entoure. Nous avons également en plateau avec nous Hicham, psychologue au nouvel hôpital de Navarre. Bonjour Hicham.
Bonjour à tous.
Comment ça va ?
Très bien, super.
Bon, ben c'est plutôt une bonne chose. Nous avons Alexandre qui est coordonnateur du CLSM, c'est ça ?
Exactement.
Bonjour Alexandre.
Bonjour
c'est quoi
à
le c'est alors ta fonction c'est cordo, ça consiste en quoi ce CLSM ?
Alors ce fameux CLSM, déjà ça peut être intéressant de définir ce que c'est parce que les acronymes on en entend tous. Donc c'est le Conseil local en santé mentale. Alors le Conseil local en santé mentale au niveau développement de Normandie, il existe déjà depuis quelques années. C'est on va dire une coordination entre les élus, le NHN, donc le nouvel hôpital de Navarre, encore un acronyme. On risque d'en avoir, faut pas hésiter à nous interrompre.
Ah ben, mon boulot ce matin c'est d'arrêter tout le monde et d'avoir des explications.
Donc voilà, c'est une coordination qui va permettre un petit peu entre la politique de la ville et puis donc le monde de la psychiatrie de faire en sorte que les habitants du territoire aient le plus possible facilement accès aux soins, un petit peu aussi avec tous les acteurs qu'on a autour du champ de la psychiatrie. Et puis ça va être aussi de travailler sur la déstigmatisation. Donc la déstigmatisation, c'est un gros mot, mais on reviendra dessus un petit peu plus tard pour définir un petit peu ce que c'est et puis en parler.
Eh ben parfait, ça c'est une intro au top, hein. C'est voilà. Justement, tu évoquais les relations et les échanges avec les élus, on en a un avec nous, Emmanuel Roussel, bonjour.
Bonjour.
En quelques mots, quelle est votre fonction aussi, et notamment à travers le CLSM ?
Alors, donc moi je suis Emmanuel Roussel, adjoint au maire d'Évreux en charge de la santé et conseiller communautaire délégué à la santé. Et je suis avec le docteur Mazouzi, psychiatre à l'hôpital hôpital de Navarre. Je suis co-président de ce fameux CLSM.
Très bien, on aura l'occasion d'y revenir également. Et nous avons également avec nous Antoinette de l'UNAFAM. Bonjour Antoinette, vous pouvez rapprochez-vous du micro. Vous laissez pas faire par Emmanuel Roussel. Hein.
Bonjour Antoinette Puskelec. Oui, je représente l'association UNAFAM, Union Nationale des Familles et Amis qui ont des proches qui souffrent de troubles psychiques. Notre mission, nous, c'est d'accueillir, d'écouter et de soutenir les familles. C'est vraiment une écoute entre pairs.
Alors j'imagine que vous êtes particulièrement investi dans ces semaines de la santé mentale, du coup, qui se dérouleront très prochainement.
Alors les semaines d'information en santé mentale, effectivement, sont très importantes pour nous, pour déstigmatiser, comme le disait Alexandre tout à l'heure, mais aussi pour faire connaître notre association afin d'aider le plus de familles possible sur le département.
Et ben voilà, le cadre est posé. Ça va être le programme de ce matin, mais tout de suite, on démarre avec du groove. Jello Douglas Junior qui nous a mis un peu de patate pour la matinale.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller.
Le pire reste à venir.
Le pire reste à venir.
De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Sur HDR et Principe Actif.
Et juste avant quand même de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous dire, j'ai pas de message ce matin, vous rappelez, on a un répondeur téléphonique 02 32 62 57 32, 02 32 62 57 32, nous le répétons régulièrement ce numéro-là, n'hésitez pas à vous en saisir pour nous, pour que vous nous donniez de vos nouvelles, que vous nous parliez d'un plan que vous avez repéré, je disais souvent l'année dernière, un poème, laissez-moi un poème, j'adore ça, moi le matin, ça me met bien en fait, un poème, aidez-nous à enrichir ce programme en laissant un message sur le répondeur. Nous le diffusons lors de la matinale aux alentours de 8h10. Maintenant que le décor est planté, retrouvons nos invités, à savoir Hicham, psychologue, Alexandre Cordo du CLSM, Emmanuel Roussel qui préside ce CLSM, enfin qui co-préside, pardon, ce CLSM, Antoinette de Luna Femme, et puis on a Léna qui se cache derrière. En fait, moi, c'était mon interface, c'est celle qui s'occupe de la com du nouvel hôpital de Navarre, et c'est toujours mon interface, celle qui me prépare les plateaux d'invités, on échange en amont et tout, et quand c'est le moment, elle se cache. Voilà, tant pis pour elle, elle avait qu'à se mettre devant les micros, on ne l'aurait pas affichée comme ça. Je voulais revenir sur la toute première thématique, on parle de santé mentale ce matin. Ma question était, qu'est-ce que finalement cette santé mentale? Quand on parle de la santé physique, on voit bien quand on est un peu moins bien, on a le nez qui coule, quand on toussote un peu, on sait qu'on est un peu moins en forme, mais cette santé mentale, comment elle se mesure et qu'est-ce que c'est que cette santé mentale? Peut-être Hicham, psychologue. Voilà, à la fonction, je me disais que c'était sûrement toi.
Forcément.
Alors, qu'est-ce que c'est que cette santé mentale?
Effectivement, la santé mentale, en fait, c'est un concept qui est assez complexe en soi, parce qu'en fait, il y a trois facteurs qui peuvent être concaténés. À chaque fois, en fait, on vient toujours évoquer ce sujet, et surtout de ces derniers temps. Donc, en fait, on a trois facteurs. Le premier facteur, qui est un facteur plutôt biologique, effectivement, on peut déjà naître avec des problématiques d'ordre mental, hein, voilà, avec des troubles en particulier, je pense notamment à un TDAH, qui est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc voilà, on peut déjà naître avec déjà des problèmes particuliers. Puis ensuite, on a le deuxième facteur, qui est le facteur, en fait, social. Donc la société aussi, de nos jours, fait qu'on développe aussi différentes particularités, différents troubles, notamment des troubles anxieux, des troubles dépressifs ou autres, donc on aurait peut-être l'occasion d'y revenir. Et enfin, le dernier facteur, qui est le facteur surtout environnemental, hein, voilà, et psychologique principalement, où là, forcément, on est plus ou moins tous un peu vulnérables en fonction aussi de nos parcours de vie, de nos expériences, et qui fait qu'à un moment donné, dans sa vie, on peut développer effectivement différents troubles en question.
Justement, quand on parle de santé mentale, ça concerne tout le monde, comme la santé physique, c'est-à-dire que là, tu évoquais que des personnes pouvaient avoir une espèce de quelque chose quasi depuis la naissance et pour toujours, mais est-ce que tout le monde est concerné par cette histoire de santé mentale? Comment ça fonctionne?
Alors, tout à fait, effectivement, tout le monde peut être impacté par la santé mentale. Là, j'ai lu encore hier quelques articles, effectivement, une personne sur quatre est touchée par la santé mentale, en tout cas, est affectée par la santé mentale. Donc du coup, effectivement, on peut à tout moment de notre vie être impacté par différents facteurs, encore une fois, et engendrer du coup un impact aussi sur la qualité de vie, effectivement.
Emmanuel Roussel, vous souhaitiez réagir?
Oui, en fait, la santé mentale, pour compléter ce que disait Hicham, c'est si on reprend la définition de l'OMS de la santé, en fait, l'OMS dit que la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Donc on comprend bien que la santé mentale concerne tout le monde, comme le disait Hicham, et que c'est pas simplement une absence d'infirmité ou de problématique à la naissance, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et donc la santé mentale s'incorpore complètement dans ce qu'on appelle de façon plus générale la santé.
Vous avez évoqué... Ah oui, pardon, Alexandre...
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire les autres intervenants. Et juste pour compléter un petit peu, la santé mentale, on en a tous une. Et elle évolue tout au long de notre vie. Et Hicham disait bien que ça dépendait de l'environnement. Et ça fluctue en fonction des événements de vie. Notamment, ça peut être aussi bien la perte de quelqu'un, la perte d'un travail qui va faire qu'effectivement, notre santé mentale, elle va évoluer. Et c'est aussi toutes les ressources qu'on va pouvoir aller mobiliser, qui vont faire qu'en fait, ça va la faire évoluer. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que tout le monde a une santé mentale. Elle peut être très bien ou elle peut être très basse. Et c'est ça qu'en fait on essaie de mesurer. Et c'est ça qui est important de prendre en considération. Tout le monde a une santé mentale. Quand vous demandez aux gens comment vous allez, vous demandez comment est-ce qu'ils vont dans leur tête. C'est ça la santé mentale. Voilà ce que je voulais essayer de rajouter un petit peu pour dire que ça évolue vraiment en fonction des facteurs de vie de notre environnement.
On a évoqué rapidement, et c'est Emmanuel Roussel qui a prononcé ces mots, il a parlé de santé sociale également. C'est lié à la santé mentale? Alors, comment vous nous définissez ça?
J'ai pas parlé de santé sociale, j'ai de bien-être.
De bien-être
mental, social. Bah oui, parce que évidemment, quand d'ailleurs on le voit, et les statistiques, je crois que c'est à peu près 30 à 40% des personnes qui ont des difficultés sociales et qui sont notamment ce qu'on appelle les SDF, ont des troubles psychiques de manière générale. Et donc on voit bien que les troubles de la santé mentale peuvent évidemment amener à des troubles et des problématiques sociales, voilà, parce que en fait, comme le disait Alexandre, la santé mentale, c'est la capacité qu'on va avoir à faire face aux défis de la vie de façon normale. Il y a les aléas, les hauts, les bas, on va tomber malade plus ou moins, alors on sera plus dans la santé, mais la santé mentale, on le voit bien d'ailleurs quand on a une maladie physique, la santé mentale va nous permettre aussi de pouvoir faire face à ces problématiques et de pouvoir contribuer à la guérison. La santé mentale, une bonne santé mentale nous permet de faire face aux défis de la vie, une perte d'emploi, une perte d'un proche, des difficultés que l'on rencontre. Et si on n'a pas cette santé mentale, alors à ce moment-là, les défis de la vie vont devenir des obstacles quasi insurmontables. Et c'est là où, effectivement, ça va entraîner un certain nombre de conséquences qui peuvent être sociales.
Si je vous suis bien tous au fur et à mesure de vos explications, finalement, cette santé mentale n'est pas, j'ai envie de dire, stable et permanente au même niveau. Et nous vivons tous des hauts et des bas de cette santé mentale, d'une bonne santé mentale à une un peu moins bonne santé mentale. Finalement, c'est assez variable tout au long de l'année, des mois, de la semaine, enfin de tous nos instants de vie, sans que ce soit précisément inquiétant. Où est-ce qu'on retrouve les ressources pour que ce soit pas inquiétant, enfin en tout cas préoccupant?
Alors, des ressources, on en a tous, mais simplement, c'est d'être capable de les identifier, de les utiliser. Alors, forcément, il y a des personnes qui ont des ressources avec un cadre familial stable qui va être là pour épauler, ou ça peut être aussi un entourage, des amis, ça peut être aussi au niveau du travail. Après, il y a d'autres ressources avec des acteurs externes, donc ça, on en parlera un petit peu plus tard, mais ça va être d'identifier vraiment toutes ces ressources-là qu'on a, qui vont pouvoir nous aider à faire face.
Et ce qui est bien, c'est que ce plateau s'organise tout seul. Tout le monde est en train de montrer du doigt Antoinette de l'UNAFAM sur ces questions d'entourage, en fait, et notamment de maintien de bonne santé mentale.
C'est vraiment le rôle de notre association, c'est de soutenir...
L'UNAFAM, ouais.
L'UNAFAM, c'est vraiment de soutenir les aidants. Parce que quand on est aidant, notre santé mentale peut se trouver aussi fragilisée. Et le fait d'avoir un soutien entre personnes qui se comprennent, parce que c'est le but de l'association, on vit des situations qui sont différentes, mais avec les mêmes impacts, les mêmes inquiétudes, les mêmes angoisses, les mêmes difficultés aussi. Pour l'accès aux soins, pour l'accès au logement, pour nos proches. Donc c'est vraiment très important de pouvoir s'informer auprès des associations. Et nous informons, non seulement nous soutenons, mais nous informons aussi les aidants.
Cette question de santé mentale pour le grand public dont je fais partie a émergé il y a quelques années dans l'espace de discussion. On parle de santé mentale au travail, on parle de santé mentale de manière un peu plus globale. J'ai l'impression que la période difficile de 2020 notamment, alors je parle de la période Covid avec tout ce qui a été confinement et compagnie, a fait émerger des difficultés particulières. J'ai la sensation que depuis ce moment-là, donc avant-hier pour ainsi dire, ces questions de santé mentale arrivent un peu dans tous les milieux. Je ne sais pas si vous faites le même constat. Et surtout, ça permet quoi finalement qu'on en parle dans l'espace public régulièrement?
Alors je dirais en 2025, ça a permis que ce soit la grande cause nationale. Et là, c'est très très important parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup plus d'informations faites par rapport à la santé mentale et de briser les tabous sur la santé mentale. Parce que beaucoup de gens n'ont pas accès aux soins parce que la santé mentale est encore très décriée.
Oui, c'est ça. C'est pendant très longtemps, la santé mentale, c'était quelque chose qu'on n'osait pas aborder, j'ai envie de dire, publiquement ou dans l'espace public. En tout cas, ça faisait partie des maladies un peu honteuses, presque, en tout cas dans la représentation générale. Aujourd'hui, on a changé quand même un peu le curseur et j'ai la sensation que la santé mentale, finalement, c'est un état que tout le monde a et on vient le sonder. C'est-à-dire que les mots santé mentale ne sont plus, en tout cas, autant stigmatisés.
Alors, les mots santé mentale ne sont plus autant stigmatisés, mais les troubles psychiques le sont encore beaucoup. Donc, c'est bien là l'œuvre des semaines d'information santé mentale, c'est de briser justement ces tabous sur les maladies psychiques et notamment les troubles psychiques qui ne sont pas des altérations intellectuelles. Et je vais laisser la parole peut-être à Hicham.
Alors, oui, effectivement... Moi, je le vois à travers mes patients. De toute façon, on garde un petit peu encore quand même cette stigmatisation de la santé mentale. Bah, je suis fou, je suis folle, etc. Donc, notre travail aussi avec les partenaires aussi locaux et l'idée de déstigmatiser surtout principalement ces idées-là. Après, concernant en tout cas les troubles depuis l'apparition du Covid, depuis le confinement, c'est clair que là, on connaît encore, même jusqu'à aujourd'hui, des recrudescences aussi de troubles psychiatriques, de troubles psychiques principalement. Et notamment encore du Covid, hein, encore des séquelles encore aujourd'hui qui persistent de nos jours.
Pour rebondir sur cette question environnementale, est-ce que c'est le monde dans lequel on vit finalement qui est de plus en plus propice à une mauvaise santé mentale? Il y a des croisements d'infos comme ça ou pas?
Alors,
ou c'est moi qui extrapole?
Alors si, effectivement, en fonction de l'environnement dans lequel on vit, dans lequel on grandit également, effectivement, cela peut avoir une grosse influence. Et puis chacun aussi, en fonction de nos capacités de résilience, je dirais, de nos capacités à faire face aussi aux événements de la vie, on est plus ou moins vulnérable aussi par rapport à ce qui se passe autour de nous.
Et alors, pour aller au bout de ma question, parce que c'est pas tout à fait comme ça que je l'abordais, okay. Est-ce que c'est le monde contemporain qui aujourd'hui fabrique plus de points d'accroche pour une mauvaise santé mentale, quoi.
Effectivement, la société aujourd'hui fait que on développe pas mal de troubles anxieux, de troubles dépressifs, etc. Donc pour le coup, c'est clair que c'est assez complexe par rapport à la société dans laquelle on vit, au vu des difficultés financières, des événements de vie particuliers, etc. L'imposition forcément face à notre société actuelle. Donc c'est clair que c'est très compliqué. Je pense qu'on est tous impliqués aussi dans ce système-là.
Emmanuel Roussel.
Oui, on parle notamment d'éco-anxiété par rapport aux enjeux de développement durable et notamment des changements climatiques. Et puis plus récemment, on a quand même eu de l'actualité à travers l'impact des réseaux sociaux qui amènent, et c'est aussi un des enjeux et peut-être la parole qui se libère aussi aujourd'hui sur la santé mentale des jeunes. Alors c'est vrai que ça a commencé, et en tout cas ça a été mis en exergue au moment du Covid, mais je pense que la question de la santé mentale, elle se pose beaucoup aujourd'hui à travers la santé mentale des jeunes. On assiste de plus en plus, malheureusement, à des suicides de jeunes et à des persécutions aussi à travers les réseaux sociaux. Et donc ça, évidemment, ça impacte de façon significative la santé mentale.
Alexandre.
Oui, pour rebondir sur ce qui était dit, c'est vrai qu'il y a une évolution depuis les années 90, je pense d'un point de vue des troubles du neurodéveloppement, où on a pu diagnostiquer de plus en plus de pathologies, ce qui n'était pas le cas avant, et on a pu mettre un nom sur ces pathologies. On parlait tout à l'heure des TDAH, donc les troubles et déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, et même sur tout ce qui est de la trouble, tous les troubles de la sphère autistique, etc. C'est vrai qu'aujourd'hui, de plus en plus, on voit des jeunes qui ont des pathologies et qui arrivent à se faire reconnaître en tant que malades. Ce qui, avant, n'était pas forcément le cas, puisque c'était un peu honteux, c'était un peu tabou. Et c'est vrai que quand on revient, je rebondis sur les SISM, qui ont été créés en 1990 par l'Association française de psychiatrie.
Alors, ce sont les semaines de la santé
d'information en santé mentale. Et c'est vrai qu'il y a une grosse évolution, puisque depuis 90, où c'était créé par l'Association française de psychiatrie, jusqu'à en 2025, donc 35 ans plus tard, pour en faire une grande cause nationale. Donc on voit qu'il y a une évolution tout doucement au niveau des représentations. Parce qu'on le disait tout à l'heure, est-ce que c'est stigmatisé ou pas? Bah, ça dépend des représentations de chacun. Quand on parle de santé mentale, il y a des gens pour qui c'est tabou. Non, il faut surtout pas qu'il y ait un membre de la famille qui puisse avoir une déficience quelconque, et d'autres qui tout à l'opposé, vont avoir besoin de cette reconnaissance et d'affirmer une affirmation de soi, de dire oui, voilà, j'ai une pathologie, je vais être reconnu en tant que tel et pris en considération et accepté en tant que tel. Et tout ça, c'est important de mettre ça un petit peu dans la balance pour voir l'évolution des sociétés, des représentations de chacun, et puis aussi de voir l'évolution qu'il y a eu aussi au niveau des l'identification des diagnostics qui ont pu être posés, qui sont de plus en plus larges, puisqu'on en découvre encore aujourd'hui.
Antoine,
je me pose une question. On a entendu beaucoup parler de cette période de confinement, de Covid. Est-ce que il y avait aussi eu à l'époque des plans du gouvernement, il me semble, pour encourager les jeunes à consulter des psychologues, des psychiatres? Est-ce que ça a eu un impact sur le public que vous avez pu retrouver dans vos associations et dans vos activités autour de la psychologie et de la santé mentale surtout? Et est-ce que ça a vraiment fonctionné pour encourager des gens que vous n'avez pas habituellement à venir se pencher sur ce sujet de santé mentale?
Alors, pour ma part, en tout cas, avec les patients que j'accompagne principalement dans ma structure, effectivement, on a un petit peu laissé ouvert, en tout cas, la possibilité de ces personnes-là à ce qu'elles puissent échanger sur effectivement leur problématique. Après, ça aussi, c'est tout notre travail aussi de devoir un peu libérer la parole, je dirais. Mais dans tous les cas, je pense ça a permis, depuis la période du confinement, au vu des dispositifs qui ont été mis en place, je pense notamment à mon soutien psy aussi, qui ont permis justement ces personnes-là consulter, que ce soit dans les CMP ou toute autre structure de prise en charge.
Centre médico-psychologique.
Donc ça a laissé la place, et on voit de plus en plus, on voit en tout cas que la file active augmente d'année en année, et la demande est de plus en plus forte, et surtout cette année particulièrement spécifique à la santé mentale.
Merci.
Alors du coup, maintenant qu'on a, parce que là en fait on pourrait en parler des heures et rester sur ces éléments là moi je voulais revenir, une fois qu'on a fait ce constat, qu'on a déterminé un petit peu ce qu'était la santé mentale, comment on l'accompagnait, quelles étaient les problématiques sur lesquelles on devait avancer, moi je voulais savoir un petit peu quel était le rôle du coup du CLSM sur une agglomération ébruissienne par exemple, comment ça facilite en fait l'accès aux soins ou la bonne santé mentale des habitants.
Alors, en fait, ça fait la transition par rapport à ce qui vient d'être dit, puisque justement, l'objectif du Conseil local en santé mentale, qui s'est mis en place au niveau de l'agglomération d'Évreux à la sortie du Covid, enfin du confinement en 2020, qui a permis de réunir en fait tous les acteurs autour de la santé mentale. Donc on a parlé évidemment de l'hôpital de Navarre, bien sûr, de la ville, mais aussi des aidants et des usagers aussi, et des structures aussi médico-sociales qui interviennent dans le champ indirect lié à la santé en général et la santé mentale. Et plusieurs en fait constats ont été faits, et ça fait le lien avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que c'est pas le tout de se sentir pas bien, c'est savoir à quelle porte on va frapper pour pouvoir trouver de l'aide. Et donc le CLSM en fait a travaillé en fait sur 6 axes qui ont été définis lors des premières réunions, qui étaient d'abord d'améliorer en fait la lisibilité de l'offre de soins auprès des professionnels de santé et des usagers. Donc on en revient effectivement à ce qui a été dit. C'est aussi favoriser la montée en compétences des professionnels de première ligne en créant une offre de formation pour ces professionnels de santé, parce que parfois des personnes qui sont en contact du public vont repérer qu'il y a des choses qui peuvent interpeller, mais à partir de là, je fais quoi? Qu'est-ce qui est de l'ordre du normal, du pathologique? Qu'est-ce qui pose question? Il s'agit pas de faire un diagnostic à ce stade, mais de savoir vers qui orienter. Il faut améliorer, et ça c'est un enjeu fort, le repérage précoce des troubles psychiques, parce que parfois ça se passe dès l'enfance et dès l'école primaire, où il y a quelques troubles qui commencent à apparaître, et bien souvent les parents ne l'observent pas ou sont dans le déni, et donc il faut pouvoir effectivement agir au plus tôt, parce que plus on agit tôt et plus c'est facile de corriger les trajectoires. Il faut lutter aussi, on en a parlé en début d'émission, lutter contre les discriminations et la stigmatisation des troubles psychiques et promouvoir une santé mentale positive. Et enfin, le dernier point qui était de favoriser la participation et l'inclusion citoyenne des personnes souffrant de troubles psychiques, et c'est l'objet de la semaine d'information en santé mentale.
Vous poussez tous la deuxième partie de l'émission beaucoup trop tôt. Bien entendu que nous allons parler des semaines d'information de la santé mentale. C'est l'objet de nous voir. Moi, je voulais revenir sur. Ça y est, je ne relis plus mes notes. J'avais une super question, mais c'est pas très grave. Je vais le faire sans. Quand on a posé un petit peu tout ça, on a bien vu qu'il y avait des structures, qu'il y avait tout un maillage et aussi du médico-social. Et je pense notamment à toutes les structures qui existent sur le territoire. Et plus largement, là on parle du territoire hébroïcien, mais à Rouen c'est exactement la même, dans le sud de l'Eure, peut-être un peu moins, mais il y a des antennes de l'hôpital de Navarre, hein, du nouvel hôpital de Navarre. Quand on a tout ça, on ressent le besoin d'être accompagné, comment est-ce qu'on prend soin de sa santé mentale au quotidien? Est-ce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour aussi pour être en bonne santé mentale? Non, mais est-ce qu'il y a des astuces de maintien de sa bonne santé mentale? Est-ce qu'on a des entraînements? On dit pour la santé physique, le sport est bon. J'imagine que pour la santé mentale, ça l'est aussi. Hein. Mais est-ce qu'il y a des choses qui font partie de l'entretien de sa santé mentale? Qu'est-ce qui peut exister tout à chacun qu'on peut faire? Là, Hicham, psychologue, c'est pour toi. Hein. Tout le monde bien te compris. Regarde. Non, mais tout le monde te regarde. Hein. J'ai un super plateau aujourd'hui en émission. C'est-à-dire que ce sont les invités qui montrent du doigt qui va prendre la parole. J'ai même pas besoin, moi, d'interpeller les uns les autres. Hicham, du coup.
Alors, vaste sujet, effectivement. Alors, dans tous les cas, tout part effectivement d'une base qui est l'hygiène de vie. Donc, à savoir, le sommeil qui doit être effectivement de bonne qualité, dormir à des heures, il se réveille à des heures régulières, voilà. Également, on a les activités physiques. Donc, comme tu viens de le dire, effectivement, c'est vraiment une pratique. Alors, on dirait pas tous les jours, mais en tout cas, le faire le plus souvent possible pour essayer de rétablir à la fois le physique et le psychique. Hein, l'un ne va pas sans l'autre, de toutes les manières. Et puis, forcément, l'alimentation, donc le concept de 5 fruits et légumes par jour, alors, idéalement, ça serait bien, mais effectivement, avoir une alimentation au minimum équilibrée serait aussi l'avantage pour maintenir une bonne santé mentale. Après aussi, l'environnement, l'entourage aussi est nécessaire pour pouvoir aussi échanger, discuter, à ce que ce soit pas un tabou aussi, parce qu'on vit tous, un moment particulier dans notre vie où c'est un peu compliqué. Mais discuter avec un entourage soutenant et étayant, c'est aussi une force également qu'on peut obtenir pour stabiliser également sur le plan psychique.
Moi, on m'a dit qu'il fallait marcher en forêt. On m'a dit que c'était bien ça pour le cerveau. Non, mais c'est pas une blague. Hein. Je l'ai entendu 10 000 fois ça.
Tout à fait. Marcher en forêt, ça permet effectivement de s'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Et je rajouterais même marcher. Alors, si vous vivez en côte ou en bord de mer, c'est l'idéal. Le bleu permet de rassurer, de détendre effectivement l'esprit.
c'est pour ça que c'est si chouette de marcher au bord de la mer alors.
Exactement,
Alexandre.
Il est même conseillé d'aller marcher tôt le matin puisque les premières lueurs du soleil sont celles les plus bénéfiques pour l'organisme parce que c'est celles qui permettent à l'organisme de bien se réveiller. Donc voilà, les marches sont à tout moment, elles sont bonnes, mais elles sont encore plus favorables le matin pour bien commencer la journée et être en bonne santé mentale.
Finalement, c'était un bon conseil, cette histoire de va marcher en forêt. Je crois que c'était pour se débarrasser de moi qu'on me disait ça, mais pas du tout, c'était vraiment pour que j'aille bien. Je vous propose une pause musicale et nous revenons juste après ces super organismes que j'ai choisis.
Lurking in the dark. This sucks, I'm the Kmart store jerk. Sorting trash, I kept the stash of coca candy, straight from Japan. Hologram and she was never as young. Think you know what I need to get by.
Something for your mind.
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 Something for your
mind.
Mind,
mind, mind, mind,
something for your mind.
정신의 집어넣으세요. 정신의 어떤 것 필요합니까?
Something for your
mind. 정신의 집어넣으세요.
Something for your
mind. a cliche. Make way, I'm in my Pepsi mood. Mama needs food, how about a barbecue? For us, the bourgeoisie, so carefree. Remember when we? I don't know why you need to get by.
Something for your mind.
Super organisme, et nous sommes toujours sur Le Pire Reste à Venir, sur la consacrée à la santé mentale.
Le pire.
Le pire.
Reste à venir.
Reste à venir.
Bon, allez, debout là-dedans.
De 8h à 9h sur Principe Actif et HDR.
Allez, debout là-dedans, allez.
Et il est l'heure de retrouver notre chroniqueur technologique en chair et en os. On avait fini par croire que t'étais un homme virtuel, Antoine. Hein.
Ah mais j'étais une IA depuis la rentrée en fait. C'était.
Ah oui, en fait voilà, c'est ça. C'était des chroniques IA que nous récupérions.
À fond dans le thème.
Et ben voilà, exactement. C'est effectivement Antoine qui porte son regard de spécialiste de la technologie, son regard de la jeunesse sur le monde qui nous entoure. Qu'est-ce que tu nous as réservé aujourd'hui?
Eh bien, je suis reparti un petit peu dans les crossovers entre le sujet de l'émission, donc la santé mentale, et mon sujet de prédilection, la technologie. Et aujourd'hui, c'est vraiment le top pour moi, du coup, parce que, bah, je veux dire, le sujet de la santé mentale dans une chronique technologique, au début, ça sonne un peu comme si je vous parlais d'une ratatouille à la confiture. On se demande quel est le rapport, et par quel tour de passe-passe digne d'un homme politique, on se retrouve avec ce mélange. Et pourtant, quand on gratte, et c'est là que l'analogie s'arrête hein, pour la ratatouille à la confiture, la technologie, elle, c'est un sujet qui a pléthore de connexions avec la santé mentale, des façons positives, négatives, des problèmes que cela a créés et d'autres que cela a pu résoudre. Et cela est rendu d'autant plus vaste que la technologie s'est répandue de façon éparse dans la société au cours des dernières années et qu'elle va continuer de se répandre à mesure que les jeunes générations vont grand remplacer nos anciens. Aujourd'hui, le smartphone est la brique technologique au centre de la société. Alors attention, je généralise beaucoup, mais il est vrai qu'une large partie de la population en dispose et s'en sert massivement pour se connecter socialement via les messageries et les réseaux sociaux. C'est génial, on peut se rapprocher de nos proches les plus éloignés, se donner des nouvelles et partager les événements importants qui font nos vies en instantané. Mais c'est pas tout. Par exemple, les réseaux sociaux peuvent parfois servir à créer des groupes. Cela peut être autour d'une passion commune, d'un acteur, mais pas seulement. Il en existe en effet des groupes de parole virtuelles où on peut se réunir en fonction de son trouble anonymement. Ce genre de groupe de parole peut être utile pour ceux qui viennent d'être diagnostiqués afin de comprendre leur diagnostic, demander des avis, des conseils ou parfois même être réconforté par des gens qui comprennent la situation. Ce genre de groupe se limite pas seulement à des groupes triés par pathologie, il peut s'agir de groupes moins ciblés, dédiés aux discussions autour de la santé mentale pour obtenir des avis plus généraux ou parler de sujets n'attrayant pas à un trouble en particulier. Dans le même esprit, on a aussi vu des personnes souffrant de phobie sociale garder le lien avec la vie extérieure grâce à ce genre de groupe, leur permettant ainsi de créer une bulle de sécurité et permettant de traiter progressivement la phobie. Malheureusement, si on parle de phobie sociale, elles peuvent aussi être liées à de mauvaises expériences vécues sur les réseaux. En effet, les réseaux peuvent être vecteurs d'attaques personnelles qui peuvent vous atteindre dans la vraie vie, malgré leur nature virtuelle. On le déplore avec les vagues de cyberharcèlement qui touchent beaucoup trop de monde et face auxquelles les plateformes sont parfois beaucoup trop laxistes. Heureusement, en France, nous disposons depuis quelques années de Pharos, une plateforme placée sous l'égide du ministère de l'Intérieur qui permet de signaler directement aux forces de l'ordre des contenus vous atteignant. Cela peut concerner le cyberharcèlement, mais également beaucoup d'autres infractions à votre encontre pouvant se produire sur Internet. Les retours au sujet de cette plateforme sont généralement plutôt positifs. Enfin, un des autres volets concernant la santé mentale sur le plan technologique concerne l'addiction. En effet, certains réseaux sociaux ont réussi à développer des algorithmes très puissants, capables de repérer en moins de 5 vidéos courtes vos centres d'intérêt. Ces plateformes sont ensuite capables de vous pousser à chaque fois la vidéo la plus susceptible de vous garder sur leur plateforme pour afficher ensuite le plus de pubs possible. Cette addiction peut ensuite être à la source de problèmes d'attention liés à des formats de vidéos courts et qui habituent notre cerveau à des contenus courts qui ne font plus réfléchir finalement. Et cela, ça se ressent ensuite dans la vie réelle. Enfin bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur ces sujets, mais ce sera sans doute l'objet d'une nouvelle chronique une prochaine fois. Merci de votre attention.
Merci Antoine. Il y a peut-être des réactions par rapport à tout ce qui a été dit là dans la chronique d'Antoine. Oui Alexandre.
Oui, c'est vrai que quand on parle des écrans, on entend souvent le terme d'addiction aux écrans. Alors je vais mettre un peu un pavé dans la mare, mais il n'y a pas d'addiction aux écrans. Il y a un mésusage. C'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que une addiction, je pense que Hicham pourra en parler mieux que moi, mais ça entraîne des dépendances physiques, ça entraîne physiologiques, des choses comme ça. Et c'est pas le cas avec un écran. C'est vous retirer à n'importe qui le téléphone dans sa vie, ça l'empêchera pas de vivre. Il va pas se sentir mal. Il va peut-être être un petit peu désorienté au pire au début, mais à aucun moment ça va l'empêcher de mener à bien sa vie, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup, une grosse problématique au niveau du mésusage des écrans qui ont pris une place super importante. Et on voit bien avec ce que tu soulevais dans ta chronique au niveau des vidéos qui sont proposées par les réseaux qui nous poussent à faire un peu ce qu'on appelle ce doom scrolling, c'est-à-dire de scroller à l'infini comme ça, de passer de vidéo en vidéo et d'y passer des heures. Hein, je pense que tout le monde l'a fait, même ici autour de cette table, de commencer à vouloir regarder une information sur Internet et à se retrouver à regarder ou des recettes de cuisine ou des idées de voyage ou un tuto de bricolage infernal qui dure pendant des heures. Donc il n'y a pas de mésusage, il n'y a pas d'addiction aux écrans, pardon, mais il y a vraiment un mésusage.
Ah, moi ça me le fait à chaque fois, quand je mette le réveil pour le lendemain, deux heures après je me rends compte que je l'ai toujours pas mis. C'est à peu près comme ça que ça fonctionne chez tout le monde.
Voilà.
Je voulais revenir sur les semaines et je vais me tourner vers Antoinette de l'UNAFAM. Les autres pourront aussi parler, hein, bien sûr, mais en tout cas, je vais me retourner vers Antoinette de l'UNAFAM pour parler justement de ces semaines d'information de la santé mentale qui vont se dérouler du 6 au 19 octobre, donc c'est très prochainement, ouvert à toutes et à tous. C'est ça l'objet, c'est de communiquer avec le plus grand nombre. Moi, je voulais savoir un petit peu, et notamment avec vous, comment on échange, quels sont un peu les chevaux de bataille ou quels sont les éléments qu'on veut mettre en avant sur ces semaines d'information sur la santé mentale.
Alors, ces semaines d'information sur la santé mentale, comme l'a dit Alexandre, elles sont créées depuis 1990. Maintenant, c'est un collectif, puis c'est pourquoi nous sommes tous là. Donc, avec le Conseil local en santé mentale d'Evreux, avec le nouvel hôpital de Navarre. Et ces semaines d'information de santé mentale, pour nous, elles commencent le 4 octobre avec une marche solidaire, le samedi matin de 9h à 12h et un stand sur le marché, pour présenter les actions sur les semaines suivantes. Cette marche solidaire, c'est évidemment, on invite tout le monde, puisque cette année, le thème, c'est le lien social. Et évidemment, ces actions ont pour but d'informer, de sensibiliser le grand public. Donc, nous invitons tous ceux qui nous écoutent à nous rejoindre à 9h30 sur le Bel et Bas, samedi matin, le 4 octobre.
Alors ça, c'est le point de départ des semaines. Alors ça, c'est drôle, il y a deux semaines autour de l'information santé mentale, mais c'est pas assez pour vous. Vous débordez en amont, vous rajoutez des jours. En fait, il y a une opération nationale et vous vous dites « Ouais, mais on commence avant. On est à deux doigts que vous terminiez après. Hein. »
C'est ce qui risque de se passer.
Ce qui est intéressant, et c'est pour ça, Antoinette de l'UNAFAM, je vous garde encore deux secondes sur cette question-là, c'est qu'en fait, les patients participent très activement à ces semaines d'information. Ce ne sont pas des professionnels qui viennent informer tout le monde, c'est aussi les patients qui s'en emparent.
Alors, c'est tout le monde, effectivement. Ce sont des patients ou des usagers, tout dépend comment on les appelle.
Oui, d'ailleurs, peut-être que je me méprends sur les termes. Hein. Arrêtez-moi quand je dis des bêtises.
qui participent à cette marche solidaire, ce sont les accompagnants, les soignants qui sont là aussi, et le médico-social, puisque l'association L'Abri nous rejoint aussi sur cette marche solidaire et partenaire. Et ça permet aussi, cette marche solidaire, d'aller vers les structures qui sont méconnues. Et c'est pour ça que nous invitons le grand public, parce que c'est notre marche solidaire, nous allons aller sur l'hôpital de jour enfant et le CATTP enfant. Donc ça permet aussi de faire connaître les structures qui existent pour accueillir les personnes qui souffrent de santé mentale.
Alors ça c'est donc, vous évoquiez la marche du samedi 4 octobre sur le bel et bas, le lieu de départ. Mais il y a aussi ce fameux samedi 4 octobre, des présences sur le marché, sur le marché d'Evreux. Ça, c'est important aussi. J'ai eu l'occasion d'échanger déjà. C'est pas la première année qu'on échange sur ces questions de semaines d'information de la santé mentale. Mais ces rencontres sur le marché, elles permettent quoi, en fait? Parce que les gens viennent pas pour vous rencontrer quand ils vont au marché, non. À la base.
Alors, déjà, c'est assez ludique. Souvent, on utilise des jeux, des accroches un peu ludiques. C'est rendre la question de la santé mentale centrale, changer le regard sur les personnes concernées et d'informer sur les questions de santé mentale.
Amener peut-être aussi le grand public à se poser des questions, d'une, sur leur regard porté sur ces questions-là, mais peut-être vers eux-mêmes, dans quelle santé mentale ils sont.
Aussi. Et on insiste bien que tout le monde est concerné, effectivement, par des problèmes, peut être concerné par des problèmes de santé mentale. C'est vraiment la santé mentale au sens large qu'on nous abordons sur ce marché.
Bon, on vient carrément au programme, parce qu'en fait, sur le programme, il y a des éléments, moi, qui m'ont particulièrement attiré. Je vais le prendre dans l'ordre. Le 11 octobre, c'est la Détective Paris, à Conchanouche. C'est Léna qui va nous en parler, c'est ça? Bah oui, Léna, c'est ça. Léna et Hicham qui vont nous en parler. Allez, Léna, bah oui, toi qui insistais pour nous raconter. Elle vient de se faire piéger. Hein.
Alors, en effet, donc nous avons la détective party qui est prévue le 11 octobre à partir de 14h jusqu'à 17h à Conchanouche, à la Maison des Arts. Et c'est sur inscription. Donc c'est une inscription qui est obligatoire et il y a le QR code sur nos réseaux sociaux et aussi sur les réseaux sociaux et puis le site internet de la ville de Conche. Et puis, je vais laisser la parole à Hicham pour qu'il vous explique.
Non, mais elle s'en sort bien
ouais,
quand même. Hein.
Pas mal, bravo.
Dans sa situation.
C'est l'information principale.
Dans sa situation, on aurait fait pareil.
Elle a géré.
Hicham, alors.
Donc, effectivement, la détective partie. Donc, en fait, l'objectif, donc, on a six stands disposés, sur la place de la mairie de Conchanouche. Donc, ces six stands représentent six suspects. Il va falloir justement déterminer quel suspect a volé la santé mentale d'un homme et déterminer pour le coup, à partir de jeux, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, à résoudre des énigmes, obtenir des indices pour savoir qui est le voleur.
D'accord. Eh ben c'est comme ça, c'est très clair. Il y a un autre élément sur lequel j'ai attiré mon attention, c'est le mercredi 15 et le samedi 18 octobre, c'est la bibliothèque vivante, et ça je veux bien qu'on en souffle quelques mots. Je vois la tête de Léna, c'est encore elle qui a les infos, c'est ça? Voilà. Léna, t'es pas obligée de faire cette tête-là, on a compris que tu voulais pas. Non, blague à part, cette bibliothèque vivante alors.
Alors, la bibliothèque vivante, du coup, c'est le thème qu'on a donné principalement à ces deux journées.
Qui se passeront à la médiathèque.
Exactement, qui se passeront à la médiathèque d'Evreux. Donc, la première journée, c'est le 15 octobre, où il y aura donc des jeux interactifs au niveau du hall principal de la médiathèque. Et puis, on aura aussi une conférence qui sera présentée par des usagers de la réhabilitation psychosociale du Nouvel Hôpital de Navarre, notamment. Et puis, le samedi 18 octobre, donc là, il y aura véritablement la bibliothèque vivante, où en fait, on aura des résumés d'histoires qui seront...
Des parcours de vie?
Oui, c'est ça, d'histoires de parcours de vie d'usagers. Et en fait, les personnes seront invitées à piocher au hasard un résumé, le lire, et puis si ça les intéresse, eh bien, la personne qui a écrit ce résumé se lèvera et expliquera du coup son histoire.
Ça, c'est de l'échange très direct, de l'échange humain sur des parcours. Il n'y a rien de plus marquant qu'un parcours. Enfin, nous, en radio, on l'a déjà testé. On peut parler de grandes théories, de grands thèmes. Quand un témoin vient et parle de son parcours, finalement, ça nous impacte autrement quand même. Voilà. Donc, ça avait attiré mon attention. C'était pas que anodin. 18 octobre, notamment, oui, dans la Bibliothèque Vivante. Alexandre.
Oui, je rebondis un petit peu sur cet agenda pour vous dire, voilà, le thème de cette semaine d'information santé mentale, puisque chaque année il y a un thème différent, c'est vraiment réparons le lien social. Et chacune des activités qui est proposée, bah, l'idée c'est de pouvoir, si vous voulez, avoir des personnes qui n'ont pas forcément eux de problématiques, qui n'ont pas identifié de problématiques, mais qui ont peut-être dans leur entourage, ça peut être un membre de la famille, ça peut être une connaissance, et c'est de se dire, bah tiens, justement, je profite de cette semaine d'information pour en savoir un peu plus. C'est aussi l'objectif un petit peu de déstigmatisation, c'est-à-dire bah, de comprendre un petit peu ce qu'on met derrière toutes ces pathologies et que ce soit accessible à tout le monde. C'est pour ça que la marche solidaire est vraiment ouverte à tous. Hein, j'insiste vraiment là-dessus. C'est-à-dire, faut pas hésiter, même si vous avez aucun trouble psychiatrique, même si vous avez une très bonne santé mentale, et ben justement, venez découvrir, parce que peut-être que dans votre entourage, vous rencontrerez des personnes et que vous serez peut-être un petit peu le messager qui pourra dire, ben voilà, tiens, j'ai identifié telle ressource, tu devrais aller voir à cet endroit-là, il y a cet acteur-là qui est très bien, etc. Donc c'est vraiment cette idée-là, aussi dans la déstigmatisation, c'est d'inviter vraiment tout le monde et de réparer un petit peu ce lien social qui est entre les personnes qui peuvent quelquefois avoir des troubles psychiques et qui se sentent un petit peu mises dans une bulle à part. Voilà.
Comme beaucoup de choses, en fait, il suffit de se rencontrer, d'échanger, de discuter pour faire tomber les clichés, les représentations et fabriquer ce fameux lien social, justement. Voilà, il suffit d'y aller, quoi, en fait,
c'est
tout simplement.
Faut venir et participer.
Et puis ce programme se terminera avec une, enfin ce programme se terminera en tout cas en clôture du programme de ces semaines, le vendredi 17 octobre, c'est la chorale intergénérationnelle et ça se passera aux Maisons de Navarre, parce qu'il y a des partenaires, on l'a évoqué tout à l'heure, la MJC et les Maisons de Navarre, le Centre Social Maisons de Navarre est un des partenaires de ces semaines. Chorale intergénérationnelle, deux mots là-dessus, c'est Léna encore, hein. Je vois Léna, me regarde. Tu vois, t'as bien fait de venir, Léna. Hein.
Tout à fait, donc le vendredi 17 octobre, à partir de 14h30, on aura cette chorale intergénérationnelle. Intergénérationnelle parce que il y a des enfants, des personnes âgées, des personnes du Nouvel Hôpital de Navarre, des usagers, donc c'est vraiment de tout âge. Et puis cette chorale est ouverte à tout le monde, donc si vous voulez venir participer, n'hésitez pas pour venir voir cette magnifique chorale intergénérationnelle.
Eh bien, parfait. Je vous propose une dernière pause musicale, le temps que nous préparions notre conclusion, comme dans les grandes conférences. Il y a toujours un moment, faut que les maîtres de conférences que vous êtes préparent la conclusion. Eh bien, on vous propose une pause musicale, le temps de préparer cette conclusion. Ah, j'avais un... Non, bah tant pis. Ce sera MDNS, une petite découverte. La faute à qui ?
That's it.
MDNS, la faute à qui ?
Le bien reste à venir. Le bien reste à venir. La matinale de Principe Actif et d'HVR. De 8h à 9h.
De 8h à 9h.
Nous sommes toujours avec nos invités pour parler des semaines d'information de la santé mentale. Hicham, psychologue, Alexandre Cordeau du CL. Alors, c'est le centre, le conseil local de la santé mentale. Je crois que j'ai pas dit de bêtises, hein.
Exactement.
Nous sommes également avec Antoinette de l'UNAFAM, association qui accompagne les familles et les accompagnants aussi des personnes qui souffrent de troubles. Autour de la santé mentale. Et fin d'émission, j'ai pas réussi à reconstituer mes mots. Hein. Léna qui est avec nous également du nouvel hôpital de Navarre. Et puis nous avions dans ce début d'émission Emmanuel Roussel qui est co-président du CLSM. Vous avez vu, je prends les abréviations comme vous. Au bout d'un moment, je l'ai dit il y a deux secondes. On était en train de se dire comment on allait conclure. Et puis Antoinette disait il y a quelques instants, il y a deux jours sur Inter, c'était les journées aussi de la santé mentale. C'est plutôt pas mal quand les médias, on va dire, d'envergure, et puis qui font normalement des programmes un peu intéressants quand même, s'emparent du sujet. C'est plutôt pas mal ça quand même, j'imagine.
Ah ben c'est très très important. L'UNAFAM est très active là-dessus. Hein. Comme dirait notre président, nous sommes une communauté d'entraide, mais aussi une communauté d'influence. Et les administrateurs du siège vont porter les plaidoyers, justement, que ce soit au ministère ou dans les grandes radios, pour faire connaître ce qu'est la santé mentale.
Et ben même dans les petites.
Merci
d'être venu. Oui.
Non, mais merci Principe Actif de nous recevoir, oui.
J'avais une bêtise à raconter, bah tant pis pour moi. C'est ça, c'est le lobby de la santé mentale en fait qui est présent là finalement, parce qu'ils sont en train de dire nous, on fait le tour des médias pour informer, pour dire, pour dispenser tous ces éléments là. C'est le lobby de la santé mentale en fait, tout simplement. Et ben bravo. Quand on préparait cette conclusion, en fait, il y a Hicham et Alexandre qu'on parlait en codé, ils ont dit ouais 31-14, ouais carrément 31-14, vas-y 31-14. Donc moi j'ai une grande question, 31-14 c'est quoi?
C'est un numéro de téléphone, le 31-14.
Tout à fait, donc c'est un appel qui est gratuit pour le coup, que toute personne, en tout cas, alors c'est un numéro spécifique aux personnes qui présentent une crise suicidaire. Vous avez au bout du téléphone, en tout cas, une personne qui est formée par rapport à ça. Donc, c'est un numéro qui est gratuit. Vous pouvez les contacter 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à n'importe quel moment. Et je fais aussi une petite touche de rappel aussi, également. Donc, n'hésitez pas aussi à vous orienter vers des professionnels de santé, si besoin, si vous estimez aussi que votre santé mentale aussi est touchée et impactée. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous orienter pour qu'on puisse vous venir en aide.
Voilà, le 31-14 qui est ouvert à toute personne, même si vous constatez autour de vous quelqu'un qui pourrait avoir des idées un petit peu noires et que vous avez besoin de quelques infos, faut vraiment pas hésiter, c'est vraiment ouvert à tous, c'est gratuit, c'est anonyme, c'est ouvert 24 heures sur 24, et en face vous aurez des pros qui vous permettront un petit peu de détecter les signes et de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir face à des situations comme ça.
C'est remettre aussi, prendre soin des autres, de soi, au cœur aussi de des préoccupations. Ça passe presque comme un lieu commun quand on dit prendre soin de soi et des autres, mais quand on le met en action, c'est tout de suite moins un lieu commun, quoi, en fait. Hein. C'est avoir vraiment une attention sur soi et sur le monde qui nous entoure. Et ça, on ne peut que vous le conseiller de prendre soin, en fait, finalement. On a fait le tour, on a les infos, je redonne les dates dans un instant, on a défini un petit peu ce qu'était cette santé mentale et comment essayer de la maintenir en équilibre, hein, parce que on parle souvent d'équilibre mental, ce qui veut bien dire que c'est pas si simple que ça, hein, quand on parle d'équilibre. On a donné plein d'infos, on a discuté, on a les infos et Antoinette nous le disait, il y a les réseaux sociaux, il y a les sites internet.
le site internet unafam.org, vous trouvez toutes les informations, y compris sur les semaines d'information santé mentale.
Toutes ces informations, on les retrouve sur le site de la ville d'Evron, on le retrouve sur le site du nouvel hôpital de Navarre, on le trouve sur les réseaux sociaux. Nous, on mettra sur notre sur nos réseaux sociaux nous le lien pour retrouver aussi les informations. 4 octobre, c'est la marche solidaire. Sur inscription, allez-y. Le 4 octobre, c'est également sur le marché d'Evreux, la possibilité de rencontrer des soignants, des spécialistes en fait de la santé mentale et se poser des questions de manière ludique. Le 11 octobre, c'est le détective party à Conches-en-Ouche, faut aller s'inscrire aussi. Le 15 et le 18 octobre à la médiathèque Roland Plaisant, c'est la bibliothèque vivante. Le 17 octobre, ce sont la chorale intergénérationnelle. Je vois Alexandre qui surveille la pendule. Moi, j'ai un autre chrono, pas d'inquiétude, tout va bien. J'ai encore 10 secondes, comme pour il faisait la pub à la télé. J'ai 10 secondes pour vous dire qu'il faut se rapprocher de tous ces événements-là. Nous, on vous remercie bien entendu d'être passé. Pour vous, les auditeurs, on vous souhaite une bonne journée. Restez à l'écoute de nos programmes parce qu'ils sont cools.